Je vous invite à ouvrir vos Bibles, mes bien-aimés, dans Genèse chapitre 8. Et comme je l'ai annoncé, nous allons parler ce matin d'un certain déconfinement, le déconfinement de Noé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le mot déconfinement n'existe pas, me semble-t-il, dans le dictionnaire français. Il va certainement apparaître l'année prochaine. Parce que ce n'est pas quelque chose qui avait été prévu par l'homme, que l'humanité entière se retrouve confinée pendant plusieurs semaines, pratiquement 2 mois, et c'est le monde entier qui s'est retrouvé confiné. Le confinement, ça existe, mais le mot déconfinement, je ne l'ai pas trouvé dans le dictionnaire. Et je voudrais lire avec vous ce passage dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18. Vous savez que Genèse chapitre 8 se trouve après Genèse chapitre 7. Je vous apprends quelque chose ce matin. Et que Genèse chapitre 7, c'est le chapitre qui nous parle du déluge qui est venu sur l'humanité. Et une famille, seulement une famille, avec un couple de chaque espèce animale a été sauvée lorsque cette famille et ces animaux ont pénétré dans l'arche. Mais à un moment donné, nous découvrons que la famille de Noé et ses espèces d'animaux ont dû sortir de l'arche. On va lire cela et puis je vous propose pendant quelques dimanches, ça prendra du temps, qu'on réfléchisse ensemble à la façon dont le déconfinement s'est passé pour Noé. Dieu se souvint de Noé, nous dit le texte, et on en parlera. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour reposer la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre, et il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe, mais elle ne revint pas. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi. » Tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Amen. Je ne sais pas si vous avez été attentif à la lecture, et je pense que vous l'avez été, mais durant la lecture, vous avez dû vous rendre compte que Noé n'est pas sorti de suite de l'arche. Même si elle s'est arrêtée sur la montagne d'Ararat, même si eh bien, les eaux ont diminué, il a fallu tout un processus avant que Noé puisse sortir, et ce n'est pas le thème de mon message ce matin, nous en reparlerons en son temps, mais si vous lisez bien au verset 15, c'est Dieu qui a donné l'ordre à Noé de sortir. Noé n'est pas sorti de lui-même. Je pense, mes bien-aimés, comme nous-mêmes, il était impatient de sortir, impatient de retrouver la liberté, comme nous sommes aussi impatients de nous retrouver dans notre lieu de culte ensemble, mais il n'est pas sorti avant que Dieu ne lui parle et ne lui donne la permission de sortir. Nous entendons beaucoup parler aujourd'hui de ce fameux jour d'après. Cette expression était pour l'instant plutôt, je pense, réservée, le jour d'après, plutôt réservée à des situations apocalyptiques. Je me souviens d'un film qui s'appelait Le jour d'après et qui faisait référence eh bien, à un cataclysme climatique qui avait amené un hiver terrible sur la Terre. Et ce film s'appelle Le jour d'après. Et l'idée, c'était de survivre donc à ce cataclysme climatique. Et on entend beaucoup parler aujourd'hui du jour d'après. On nous dit que les choses ne seront plus comme avant, que bien des choses vont changer à cause de ce que nous venons de vivre au niveau mondial. Sur certains points, c'est évident que bien des choses vont changer. Sur d'autres points, je suis moins optimiste et je crains que, connaissant le peu de mémoire de l'homme, je crains que, pour certaines choses, le jour d'après soit comme le jour d'avant. Nous avons en France un célèbre auteur français. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il s'appelle Houellebecq. Et il n'est pas réputé pour être très pessimiste, très optimiste. C'est un grand pessimiste. Mais cet homme interrogé, un célèbre auteur français, a été interrogé récemment. On lui demandait quelle serait, d'après lui, la vision de l'humanité après cette pandémie. Et la réponse qu'il a donnée a été de dire que les choses seront comme avant. Et il a ajouté, c'est du Houellebecq dans le texte, il a ajouté, les choses seront comme avant en pire. Voilà la vision de cet homme. Vous voyez, nous n'avons pas cette vision-là. Nous croyons que le Seigneur a de bonnes choses à nous communiquer. Et nous demandons au Seigneur qu'il nous permette eh bien, d'apprendre les leçons que nous avons à tirer de ce que nous venons de vivre au niveau de l'humanité. Maintenant, si nous sommes plus optimistes qu'un célèbre écrivain français, nous devons reconnaître que l'histoire de l'humanité a jamais été, l'homme n'a jamais fait démonstration d'une grande intelligence apprenant les leçons qu'il aurait dû apprendre, que l'homme aurait dû apprendre au travers des tragédies qu'il s'est déroulées dans l'histoire. Ce que je voudrais dire là ce matin, c'est que ce qui va se produire après le déluge ne va pas amener une nouvelle humanité. Et vous connaissez les textes, on aura l'occasion peut-être en d'autres temps d'en parler, mais l'homme est resté l'homme, avec son péché, avec sa nature pécheresse. Et nous aurions pu penser qu'après un tel déluge, où toute l'humanité a été détruite et toutes les espèces animales ont été détruites, nous aurions pu croire, espérer dans l'homme qu'après un tel jugement de Dieu, l'homme se réforme par lui-même, l'homme se change par lui-même, l'homme change sa nature par lui-même. Mais la vérité, vous la connaissez comme moi, c'est que l'homme ne peut pas se changer par lui-même. Et aucune pandémie, aucun déluge ne changera jamais eh bien, le cœur de l'homme. Aucun déluge, aucune pandémie ne peut changer le caractère de l'homme. Nous découvrons même, et c'est l'Écriture qui nous le montre, que le jugement de Dieu, car ce déluge est un jugement. Si vous avez vos Bibles sous les yeux, vous pouvez aller voir rapidement dans Genèse chapitre 6, verset 5, ce que nous dit l'Écriture, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour. Si vous avez le texte sous les yeux, c'est intéressant. Que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ce texte est fort. Parce que ce texte ne nous dit pas que les hommes pensaient de temps en temps au mal. Les pensées des hommes se concentraient de temps en temps qu'au mal. Non, l'Écriture me dit que c'était uniquement leurs pensées. Le péché avait atteint un tel paroxysme que toutes les pensées de l'humanité n'étaient tournées que vers le mal. Alors, Dieu a décidé de juger cette humanité pécheresse. Nous découvrons que le jugement de Dieu va tomber et ce jugement ne va pas changer le cœur de l'homme. Je méditais encore sur ce texte ce matin et je réalisais que ce qui peut changer le cœur de l'homme, ce n'est même pas le jugement de Dieu, car malheureusement, l'homme n'apprend pas des jugements de Dieu. Mais ce qui peut changer le cœur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Le croyez-vous avec moi, mes bien-aimés? La grâce de Dieu, l'amour de Dieu, sa bonté, son infinie bonté. Et ce qui nous a touchés, ce n'est pas son jugement. Ce qui nous a touchés, c'est son amour. Et je prie ce matin que peut-être ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu, vous qui voyez Dieu comme un père fouettard, toujours prêt à vous corriger, vous malmener à cause de votre péché, c'est pas le Dieu de la Bible. Nous allons en parler dans quelques instants. Le Dieu de la Bible est un Dieu de grâce et c'est son amour, alléluia, qui peut changer notre cœur. Si je voyais des pouces de temps en temps, si à un moment il faut mettre des pouces, c'est là, mes frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez avec moi que c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous change? C'est l'amour de Dieu qui peut toucher notre cœur. Oui, Dieu juge. Dieu juge parce qu'il est juste. Et vous savez comme moi que Dieu juge jamais avec colère, une colère froide. Et il me semble, comme un père parfois est obligé de corriger son enfant, il me semble que lorsque Dieu juge, il le fait, pardon de le dire ainsi, j'espère que vous allez me comprendre, comme à contre-cœur. Parce que dans sa nature, Dieu est amour. Dieu fait grâce. Et s'il juge, c'est parce qu'il doit juger, comme je l'ai écrit ici. Si Dieu juge, c'est parce qu'il est juste. Et il faut aussi le dire. Il faut dire aussi que Dieu ne peut pas tenir pour innocent le coupable. Mais Dieu, mes bien-aimés, se plaît à faire grâce. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle. Dieu veut nous faire grâce. Dieu veut vous faire grâce. Et il y a ce texte d'Ézéchiel, merveilleux texte. Ce que je désire, dit Dieu. Est-ce que c'est que le méchant meurt? Est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur? Non, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Alléluia. Ça, c'est le désir de Dieu. C'est extraordinaire. Dieu ne désire pas nous juger. Dieu ne désire pas nous condamner. Dieu ne désire pas que nous passions l'éternité en enfer avec les démons et avec le diable. Dieu, dans son cœur, alléluia, l'infini amour de Dieu, le désir infini de Dieu, c'est de faire grâce. Alléluia. Et lors du déluge, mes bien-aimés, avant le déluge, pendant tout le temps où Noé a construit son arche avec sa famille, Dieu voulait faire grâce. Nous savons que le déluge n'est venu qu'après que l'arche soit terminée. C'est assez extraordinaire quand nous réfléchissons à ces choses. Le déluge n'est pas venu lorsque l'arche était à moitié construite. Le déluge n'est pas venu lorsqu'elle était aux trois quarts construite. Mais lorsque l'arche était finie, le déluge est venu. La Bible ne dit pas combien de temps cela a pris la construction de l'arche. Il faut faire des calculs un peu savants. Il faut regarder un petit peu avec les différentes dates que nous avons de Noé pour estimer, c'est une estimation. Vous avez le droit de vérifier, si je me trompe, volontiers j'accepterai que vous me disiez que je me suis trompé sur le nombre d'années, mais il semblerait que la construction de l'arche a pris un peu moins de 100 ans. Un peu moins de 100 ans. Ça prend du temps de construire une arche. Ça a pris du temps pour Noé de suivre le plan que Dieu lui avait donné. Et chaque jour, Noé en famille est allé d'abord couper les arbres, me semble-t-il, c'est une évidence, a enlevé beaucoup d'arbres de la forêt, a commencé à faire les planches qui étaient là nécessaires, et cela a pris du temps. L'apôtre Pierre nous dit, si vous avez vos Bibles sous les yeux, cherchez avec moi dans 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2 verset 5. Et l'apôtre Paul nous dit que Pierre était un prédicateur de la justice, un drôle de terme. Si vous avez vos Bibles, 2 Pierre chapitre 2 verset 5, nous lisons « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, regardez bien ce que dit Pierre, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Que signifie le prédicateur de la justice? Certains diraient un petit peu trop rapidement, nous sommes dans l'Ancien Testament, donc il ne peut pas être un prédicateur de la grâce. Il doit être un prédicateur de la justice. C'est aller un peu trop vite dans la pensée. Non, un prédicateur de la justice signifie, selon moi, que Dieu annonçait au travers de Noé qu'il allait juger le coupable, qu'il n'y avait personne d'innocent. Savez-vous, et je pense que vous le savez pour la plupart d'entre vous, savez-vous que l'Écriture nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et si ce matin, certains d'entre nous se pensaient justes en dehors de la grâce de Dieu, nous en parlerons, mais si certains se pensaient justes, je suis obligé de vous dire que vous ne l'êtes pas, qu'il n'y a personne de juste. Il n'y a personne de juste devant Dieu. Nous sommes tous coupables devant Dieu. La loi est là pour nous rappeler que si nous avons désobéi à un seul commandement, c'est à toute la loi que nous avons désobéi. Et ce prédicateur de la justice a pendant 100 ans construit une arche, suivez bien ma pensée, en disant « il y a une proposition de salut, il y a une proposition de grâce. Je suis en train de construire cette arche sous la conduite de Dieu, au commandement de Dieu. Je construis cette arche et je suis en train de vous dire à tous qu'il y a un seul moyen d'être sauvé. Il faut venir et pénétrer dans cette arche. » Cela nous rappelle ce que nous pouvons découvrir dans Actes 4:12. L'Écriture nous dit dans Actes 4:12, je le lis pour vous, si vous voulez le chercher, n'hésitez pas à le faire, mais l'Écriture nous dit « il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et vous allez tous me dire quel est ce nom par lequel nous pouvons être sauvés. Dites-le, c'est le nom de Jésus. Vous êtes avec moi? Le nom de Jésus, c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Je réfléchissais à cela encore ce matin. Je suis convaincu que lorsque Noé a commencé à construire son arche, suivez-moi bien, écoutez bien, sous le commandement de Dieu, avec les instructions de Dieu, je suis convaincu que plusieurs ont essayé de faire une pâle copie de l'arche. Peut-être que la proposition de Noé, et certainement ne les ont pas intéressés, et se sont dit, pourquoi pas? Soyons prévoyants. C'est vrai que Noé nous parle d'un déluge qui doit venir, mais il n'y a même pas un filet d'eau qui est là, la météo annonce un été très sec et très chaud, d'ailleurs il paraît que la météo annonce pour cet été un été très sec et très chaud, alors ça m'étonnerait qu'il y ait un déluge, mais au cas où, fabriquons-nous notre petite arche à nous, faisons notre petite arche, nous on ne va pas prendre le temps de recueillir tout le monde, mais on va sauver notre propre famille. Donc je suis convaincu, mes bien-aimés, que certains ont essayé de faire une pâle copie de l'arche. Ils venaient en espion regarder de temps en temps comment l'arche était construite, et ils faisaient leur petite copie à côté en disant « on ne sait jamais ». Oui, mais voilà, lorsque le déluge est venu, la pâle copie de l'homme n'a pas pu remplacer la vérité de l'arche. Est-ce que vous me suivez? Ce qui a été copié par les hommes, ce que les hommes ont mis en place n'a pas pu résister à ce déluge terrible qui est venu sur l'humanité. Je suis en train de vous dire ce matin qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être sauvé, c'est le nom de Jésus. Qu'il n'y a qu'une seule façon d'être sauvé, c'est la repentance. Et c'est vrai qu'il peut nous être proposé de pâles copies de l'Évangile, de pâles copies du christianisme. Et aujourd'hui, il me semble que certains construisent leur arche aussi. Ça ressemble à l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile. C'est un Évangile qui ne remet pas en question le pécheur. C'est un évangile qui n'amène pas à la repentance profonde et à l'abandon du péché. C'est un évangile qui, suivez-moi bien, se construit lui-même par une copie de la Bible, une copie des instructions de Dieu. Mais ce n'est pas l'évangile. L'évangile est clair. L'évangile de Jésus-Christ est clair. Il nous dit que si nous voulons être sauvés, il nous faut quitter la voie large et spacieuse du péché. Il faut se retirer, eh bien, du chemin du péché. Et l'Écriture nous dit qu'il faut entrer par la porte étroite, s'humilier, s'abaisser, reconnaître que nous sommes pécheurs. L'abri est sûr, mes bien-aimés, et j'en parlerai en conclusion, l'abri est sûr lorsque nous avons choisi comme abri la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. L'abri est sûr quand nous avons choisi la personne du Seigneur Jésus. Pendant 100 ans, environ, Noé a prêché. Ses outils de prédication n'étaient pas comme moi ce matin, la Bible, la voix, la parole et Zoom. Non, ses outils de prédication étaient pour lui la scie, le marteau et tous les outils qu'il avait à sa disposition. C'était ses outils de prédication. Et il a prêché, prêché et prêché. Et il a appelé les pécheurs à se repentir et à venir se réfugier dans l'arche. Malheureusement, vous le savez, personne n'a répondu à cet appel. Personne n'a répondu à l'appel de la grâce, car malgré qu'il soit un prédicateur de la justice, il appelait à la grâce, il appelait au salut. Je prie que ce matin, si vous n'êtes pas encore entré dans le seul abri Jésus, je prie que ce matin vous puissiez venir à Jésus dans une repentance sincère. Alléluia. Que vous abandonniez votre péché. Et oui, que vous vous humiliez et que vous vous courbiez pour entrer dans l'arche qui s'appelle Jésus. Dieu est patient, le savez-vous. Dieu est patient. Sa patience est extraordinaire. Mais permettez-moi de vous dire qu'elle n'est pas sans limite. Je pense que Dieu est vraiment patient parce que, comme j'ai déjà pu le dire, avez-vous remarqué que Dieu a dû attendre Monsieur et Madame Escargot et Monsieur et Madame Tortue. Parce que eux, ça leur a pris du temps pour arriver. L'antilope, elle est vite rentrée. Le lion, le tigre, la gazelle, tout ça, ils sont vite rentrés. Et j'imagine Monsieur et Madame Escargot et Monsieur et Madame Tortue. Alors, écoutez bien les enfants, vous imaginez, hein? Monsieur et Madame Escargot et Monsieur et Madame Tortue, ils voient tout le monde partir comme ça, ils passent et ils doivent se dire, mais est-ce qu'on va avoir le temps, nous? Et comme j'ai déjà dit, je pense que l'escargot, on a bavé beaucoup, hein, pour arriver dans l'arche. Mais il est arrivé, tout en bavant, il est arrivé, parce que Dieu est patient, parce que Dieu attendait. Écoutez-moi bien que tous ceux qui voulaient venir dans l'arche puissent venir. Mais vous le savez aussi, à un moment donné, Dieu lui-même a fermé la porte. Ce n'est pas Noé qui a tiré la porte. Ce n'est pas Noé qui a décidé du jour ou de l'heure où il devait fermer la porte. Mais l'Écriture nous dit que Dieu lui-même a fermé la porte. Et bien aimé, ne sentez-vous pas que Dieu est en train de fermer la porte de la grâce? Que le temps de la grâce est en train de se terminer et cette pandémie, sans être pour moi un jugement de Dieu, est une alerte peut-être, écoutez-moi bien, ultime de Dieu, une des dernières alertes de Dieu pour appeler au pécheur à revenir, pour appeler le pécheur à entrer dans l'arche Jésus. Et j'ose dire ce matin, pour appeler le chrétien rétrograde, qui n'est plus dans l'arche, qui peut-être s'est laissé gagner par une copie d'un évangile qui n'est pas l'évangile, eh bien, je crois que le Seigneur nous alerte en nous disant, la porte est en train de se fermer. Elle n'est pas encore fermée. Gloire à Dieu. Et si ce matin, quelqu'un se repent, il peut entrer dans l'arche. Si un enfant de Dieu, un chrétien, veut revenir, il peut encore entrer. Alléluia. Mais la porte est en train de se fermer. Et ce matin, si vous entendez la voix de Dieu, mes bien-aimés, comme dit l'Écriture, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Et venez au Seigneur. Le prochain point que je voudrais partager avec vous, est-ce que vous m'accordez du temps encore? Je n'ai pas mis le chronomètre. D'habitude, je le mets, mais je ne l'ai pas mis. Vous m'accordez du temps? Il y en a deux qui font comme ça, les autres, alléluia. Le texte nous dit, et je vais essayer de le mettre à l'écran, c'est extraordinaire ce qui est dit là. Dieu se souvint de Noé. C'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme. Qu'est-ce qu'un anthropomorphisme ? C'est une façon d'utiliser quelque chose qui correspond à l'homme, une expression tirée de l'homme, pour parler de Dieu. C'est comme lorsque nous parlons du bras de Dieu. Dieu n'a pas de bras, Dieu est esprit. Ou de la main de Dieu. Non, c'est un anthropomorphisme pour essayer de nous faire comprendre à nous les hommes qui est Dieu, comment Dieu se comporte-t-il. Et là, nous avons quelque chose d'étonnant. Vous l'avez lu, hein, on n'y fait pas forcément attention, mais c'est intéressant d'y faire attention. Dieu se souvint de Noé. C'est un anthropomorphisme parce que Dieu n'oublie pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Dieu est Dieu. Et Dieu ne peut pas oublier quoi que ce soit. Mais c'est un anthropomorphisme pour nous faire comprendre qu'à un moment donné, Dieu s'est souvenu de Noé. Il ne pouvait pas, je l'ai déjà dit, il ne pouvait pas l'oublier. Il est Dieu. Mais je me suis posé la question, imaginons, chose totalement impossible, mais imaginons que Dieu ait oublié Noé. Imaginez Noé, sa famille, toutes les espèces animales bloquées dans l'arche. Je pense que l'arche du salut serait devenue une arche des horreurs. Pourquoi une arche des horreurs ? Parce que certainement que les animaux, à un moment donné, auraient manqué de nourriture. Et manquant de nourriture, eh bien, ils se seraient entretués et peut-être même auraient-ils dévoré eux-mêmes la famille de Noé. Le confinement a duré, savez-vous combien de temps ? Je ne parle pas du temps où l'arche s'est arrêtée, comme on l'a vu, que la pluie a cessé, mais entre le moment où Noé est entré dans l'arche et finalement, nous l'avons lu, parce qu'il n'est pas sorti de suite de l'arche, nous en parlerons, ça a été un déconfinement un petit peu par étapes. Et il a fallu qu'il envoie d'abord le corbeau et ensuite la colombe pour qu'enfin, eh bien, il puisse sortir. Et ça a pris du temps. Et si on regarde un peu les textes, et là c'est plus facile parce qu'il y a les années, l'an 601 avec le mois, si on regarde le texte de près, on va se rendre compte que le confinement a duré environ 370 jours, exactement 375 jours, plus d'une année, une année et 10 jours, si on compte une année de 365 jours. Je pense qu'on a du mal à réaliser, mes bien-aimés, nous avons du mal à réaliser comment ça a dû être dur de rester confiné 375 jours sans Internet, sans un regard à l'extérieur, car l'arche était absolument fermée, presque hermétiquement fermée, sans un regard sur l'extérieur, sans avoir les nouvelles contradictoires sur les chaînes info, je dis bien les nouvelles contradictoires parce qu'un jour on nous dit un truc, le lendemain on nous dit l'inverse, sans avoir Zoom, savez-vous qu'à l'époque il n'existait pas Zoom, sans avoir WhatsApp, fermé, entièrement fermés, repliés sur eux-mêmes pendant 375 jours. La famille de Noé, pour reprendre la série du mardi soir, était vraiment dans la salle d'attente de Dieu. Nous avons eu du mal, nous, à tenir 2 mois avec toute la technologie, avec une autorisation de sortie pour aller faire les courses, une heure de sport ou autre. Essayons d'imaginer ce que fut ce confinement pour la famille de Noé et s'occuper de cette véritable ménagerie. Imaginez que les jours passent. Les jours passent. Au début, c'est sympa. C'est sympa parce qu'ils ont entendu les gens crier à l'extérieur. Certainement, plusieurs sont venus taper à la porte pour dire « Mais on a enfin compris, on a enfin compris, on veut rentrer, Noé, laisse-nous rentrer ». Et Noé a dû certainement répondre, c'est pas moi qui ai la clé. La clé, vous l'avez eue pendant 100 ans. Vous ne l'avez pas choisie. C'est trop tard. Un jour, Jésus va revenir chercher son Église, mes bien-aimés. Ce jour est pour très bientôt. Et lorsque Jésus aura pris son Église avec lui, ceux et celles qui lui appartiennent, la porte de la grâce sera fermée. Et ça sera trop tard. Aujourd'hui, il est encore temps, et j'insiste, en parlant à ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, à ceux qui ont peut-être abandonné la foi. J'insiste ce matin en vous disant, venez dans l'arche rapidement, ne traînez pas. Mais imaginez, au début, ça devait être sympa. Ils ont dû jouer à quelques jeux avec les enfants, toute la famille était occupée à nourrir la girafe, l'éléphant. Il faut le nourrir, l'éléphant, il faut en envoyer du foin hein, pour le nourrir. Les journées devaient se passer d'une façon un peu sympathique. C'était un peu différent. On était bercé par eh bien, les flots de la mer et finalement, c'était bien. Puis les semaines sont devenues des mois. Et au bout de 4-5 mois, ça devient compliqué. Et les mois sont devenus une année et quelques jours. Et imaginez Noé qui peut-être a pu à un moment donné être comme inquiet. Peut-être les enfants ont posé cette question que peut-être vos enfants vous ont posée. Papa, maman, c'est quand qu'on sort? Bon, c'était sympa au début, c'était bien. Mais on sort quand? À quand on va sortir? À quand on va retrouver, eh bien, notre liberté? Et peut-être que Noé, de temps en temps, le soir, seul, se recueillant devant son Dieu, peut-être que Noé a eu comme la pensée, Dieu nous aurait-il oublié? Dieu nous aurait-il abandonné? Dieu serait-il indifférent de ce qui se passe? Dieu nous aurait-il oublié? Et c'est pour ça que le texte dit, et c'est un anthropomorphisme, c'est pour ça que le texte dit, à un moment donné, Dieu s'est souvenu de Noé. Non pas tant que Dieu aurait oublié Noé, mais Noé a pu penser à un moment donné que Dieu l'ait oublié. Je vais terminer, on poursuivra la semaine prochaine, je vais terminer avec cette pensée. Dieu n'oubliera jamais ceux qui sont justes. Et bien aimé, Dieu n'oubliera jamais ceux qui sont justes. Est-ce que vous voulez le croire avec moi ce matin? Dieu n'oubliera jamais ceux qui sont justes. Nous pouvons nous sentir oubliés. Nous pouvons avoir comme le sentiment que ben, Dieu ne se préoccupe pas de nous. Dieu est pas à s'occuper de nos affaires, mais Dieu n'a pas oublié ceux qui sont justes. Dieu n'oubliera jamais ceux et celles qui se sont réfugiés en Jésus. Alléluia. Amen. Dieu n'oubliera jamais ceux et celles qui se sont réfugiés dans l'arche bénie. Écoutez-moi bien, le monde peut s'écrouler. Le chaos peut venir dans le monde. Et qui sait, sans vouloir dépeindre un avenir trop pessimiste, mais qui sait si finalement le chaos ne viendra pas? Le chaos peut venir, le monde peut s'écrouler. Dieu se souviendra toujours de ses enfants. Est-ce que vous le croyez avec moi ce matin? Dieu se souviendra toujours de ses enfants. Et je voudrais terminer avec cette dernière pensée. Il est vrai que Dieu a dû manifester son jugement et sa colère. Tout ce qui n'était pas dans l'arche, vous le vérifierez dans Genèse 7, 23, tout ce qui n'était pas dans l'arche a péri. Genèse 7, 23 nous dit, « Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel. » Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu a, oui, dû juger le monde impie. Mais je termine en vous disant cela. La colère de Dieu n'est pas une colère aveugle. Nous, parfois, nous nous mettons en colère. Et notre colère est une colère aveugle qui se déchaîne presque sans fin. La colère de Dieu n'est pas une colère aveugle qui se déchaîne sans fin. Malgré la sévérité du jugement, car le jugement est sévère, je termine en nous disant, nous, l'Église de Jésus-Christ, écoutez-moi bien, Dieu a de tendres intentions pour ceux qui l'aiment. Nous avons un Dieu qui nous aime. Et Dieu a de tendres intentions pour nous. Je crois qu'il y a un reste, comme Noé fut ce reste. Je crois qu'il y a un reste qui traversera les temps difficiles que sont ceux du temps de la fin. Les temps difficiles ne sont pas finis, d'autres viennent, mais il y a un reste que le Seigneur va utiliser pour bénir le monde. Et il y a un reste que le Seigneur va, eh bien, chérir. Alléluia. Le croyez-vous avec moi? Il y a une entité, il y a un organisme vivant qui connaîtra des soins particuliers de la part du Seigneur Jésus. Il y a un organisme vivant, car l'Église, mes amis, ce n'est pas le bâtiment que nous avons dû délaisser pendant 2 mois et que nous allons devoir encore délaisser quelque temps. L'organisme vivant, c'est l'Église. Nous sommes l'Église et nous sommes un organisme vivant. Chacun derrière nos écrans, nous sommes cet organisme vivant. Et cet organisme vivant, Jésus en prend soin. Alléluia. Jésus a de tendres intentions pour ses enfants. Le croyez-vous avec moi ce matin? Et si même le chaos pouvait venir, et s'il vient le chaos, et si des choses terribles peuvent venir sur le monde, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes aimés de Dieu prend soin de nous. Permettez-moi de terminer en vous posant cette question. J'aurais aimé parler de ce vent qui est venu, et nous en parlerons la semaine prochaine, de ce vent qui est venu apaiser. Mais pour la Pentecôte, ça sera une bonne occasion de parler de ce vent qui est venu apaiser les eaux et assécher la terre. Mais pour terminer, permettez-moi de vous poser une question à laquelle vous allez répondre dans votre cœur. Faites-vous partie de l'Église de Jésus-Christ? Êtes-vous un membre de l'organisme vivant de l'Église de Jésus-Christ? Est-ce que, je vais le dire ainsi, la sève de Jésus coule en vous? Est-ce que la vie de Jésus coule en vous? Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de vous demander, est-ce que vous faites partie de l'Église de tel ou tel pasteur? Est-ce que vous êtes membre de l'Église de l'ADD d'Annemasse? Est-ce que vous êtes membre de l'Église de Mulhouse? On a parlé beaucoup de l'église de Mulhouse. Est-ce que vous êtes membre de l'église de tel ou tel pasteur? Ce n'est pas ce qui compte. Vous n'êtes pas membre d'une église, d'un pasteur. Vous êtes membre de l'église de Jésus-Christ. Et l'église appartient à Jésus. L'église d'Annemasse appartient à Jésus. Elle n'appartient pas à nos vers. Elle appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Et la question, c'est est-ce que vous êtes membre de l'église de Jésus-Christ? Ne suivez pas un homme. Ne suivez pas ces stars évangéliques, suivez Jésus-Christ, le seul, l'unique, l'arche véritable. Appartenez-vous à l'église de Jésus-Christ, non pas à l'église de tel ou tel pasteur, non pas à tel mouvement d'église, c'est pas ça ce qui compte, mais appartenez-vous à l'église de Jésus. Je ne dis pas suivez-vous les réunions d'une église, je ne dis pas êtes-vous membre officiel d'une association dite cultuelle? Non, êtes-vous membre du corps de Christ? Alléluia. Si vous l'êtes, vous n'avez rien à craindre. Vous m'entendez, mes frères et sœurs? Si vous êtes membre de l'Église de Jésus-Christ, vous n'avez rien à craindre. Et je suis obligé de terminer en vous disant, si vous ne l'êtes pas, vous avez tout à craindre. C'est vrai. Si vous n'êtes pas membre de l'Église de Jésus-Christ, dont le Seigneur va prendre soin particulièrement dans les temps dans lesquels nous sommes. Celui qui a nourri son peuple pendant 40 ans dans le désert va nous nourrir, va prendre soin de nous, son Église. Celui qui a des tendres intentions pour son Église va prendre soin de nous. Si vous êtes membre de l'Église de Jésus, vous n'avez rien à craindre. Si ce n'est pas le cas, vous avez tout à craindre. Mais ce matin, me semble-t-il, l'Esprit de Dieu, comme certainement le Saint-Esprit l'a fait pendant 100 ans avec Noé, certainement, l'Esprit de Dieu ce matin veut attirer certaines personnes afin qu'elles rentrent dans l'Église, afin qu'elles rentrent dans l'Église et soient sauvées, et ramener d'autres qui ont laissé le troupeau, abandonné le bon berger, revenir eux aussi dans l'arche de Jésus-Christ. Voulez-vous que nous terminions par la prière, mes bien-aimés? Voulez-vous que nous invoquions ensemble le nom de Jésus? Et que nous demandions à notre Seigneur Jésus toute sa grâce.